À votre santé. Bonjour les auditrices et auditeurs de RVM 93.7. Nous revoilà, l'association de citoyennes pour des centres de santé dans le Pays de Valois vous propose sa 142e émission.
Christian Max est aussi aux commandes.
Et moi-même, Hélène Mazur, comme d'habitude. Excusez-moi, 143e, c'est ce que j'ai dit ? Je m'étais trompée. Aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, quelques nouvelles du front, n'est-ce pas, Christian ?
Voilà. Donc, le taux d'incidence nationale est en baisse. Il est à 343, alors qu'il était à 415 la semaine dernière. Le taux d'hospitalisation est passé de 27 à 23%. Par contre, le taux de reproduction a légèrement augmenté, puisqu'il est passé de 0,68 à 0,75.
Ah oui, donc ça veut dire qu'on contamine un peu plus.
Qu'on va avoir un peu plus de prise en charge dans les semaines à venir. Alors pour l'instant, on a 1199 en 1200 soins critiques, alors qu'on était à 1380 la semaine dernière. Mmh. Et le nombre de décès jour a baissé aussi, puisqu'on est passé de 98 à 84.
Au niveau national.
Au niveau national. Alors dans l'Oise... Là aussi, le taux d'incidence est en baisse, mais il reste supérieur au taux national, puisqu'on est à 386. Et là où on peut faire Alléluia, Cocorico et tout ce qu'on veut, c'est que le taux d'hospitalisation, lui, il est passé de 22 à 14%.
D'accord.
Donc ça, c'est toujours bien. Mm-hmm. Le nombre de personnes hospitalisées est passé de 243 à 232, donc ça baisse tout doucement. Les réanimations sont passées de 8 à 5.
Mmh. Tout ça, c'est la même logique.
Tout ça, c'est la même logique. Et on a toujours un décès quotidien. Et la tranche d'âge la plus touchée, c'est 30 à 49 ans.
Quand même, il faut le dire, c'est les plus touchés, et y compris dans les hospitalisations, tu ne sais pas ?
Ah ça, on n'a pas les chiffres, là.
Oui, alors, donc les plus touchés, on va dire, au moins par la contamination.
Oui, voilà, ouais.
Oui.
Le taux d'incidence par tranche d'âge.
Oui, d'accord.
Bon, au niveau national, donc, oui. Mayotte reste toujours loin devant, avec 22.
Tranquille, oui.
En France métropolitaine, c'est la Seine-Saint-Denis, avec 189. Mm-hmm. Hein, nous, je rappelle qu'on est à 386. Pire, c'est le Finistère, avec 445.
C'est vraiment une inversion, incroyable.
Oui, parce qu'autrefois, ils étaient plutôt dans les plus bas.
Ah oui, l'ouest de la France était moins touché.
Et autour de nous... L'Aisne est à 351, donc grosso modo comme nous, et la Somme est à 443, donc pas loin du Finistère.
Oui, alors qu'elle était moins touchée.
Alors qu'elle était moins touchée jusqu'à présent, donc résultat quand même difficile à interpréter.
Oui, bon, tu ne te risques pas.
Non, je ne suis pas médecin, donc je constate les chiffres.
Oui, d'accord. Alors je crois qu'à part les chiffres, tu avais eu quelques autres infos.
Alors, pour faire rapidement, donc, on parlait autrefois d'un vaccin Valneva, franco-autrichien.
Oui.
Donc, l'UE avait commandé. Ils envisagent d'annuler la commande parce qu'apparemment, le vaccin ne serait pas encore prêt.
Bon.
Alors, on verra bien. Ça, c'est des histoires. C'est du commerce, ça. C'est,
oui, hein. D'autant plus que, écoute, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de vaccins en réserve et même des gâchis de vaccins.
Oui, parce qu'on n'arrive pas à vacciner tout le monde, oui.
Bon.
Et autre bonne nouvelle aussi, c'est le directeur actuel de l'INSERM qui se félicite.
Dis-nous, l'INSERM, qu'est-ce que c'est ?
L'Institut national. Oh là là.
De la recherche médicale.
Oui, de la recherche médicale et de la santé, oui.
Voilà.
Évidemment, au moment où j'en ai besoin, je ne m'en rappelle plus. Donc, ce directeur se réjouit, entre guillemets, de la pandémie parce que d'un seul coup, il a vu ses financements exploser. Alors que jusque-là, il fallait qu'il mendie le moindre centime.
D'accord. Bon, voilà, au moins une leçon.
Merci les politiques, ils ont enfin compris, après la bataille, comme toujours, mais bon. Puisque ça, s'il avait eu l'argent avant, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Mmh. Mais bon, passons. Et il y a une autre grande nouvelle qui nous est tombée dessus depuis lundi. Alléluia, au plus haut des cieux, le masque n'est plus obligatoire.
Ah, mais alors ça, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce
pas ? Oui, mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que quand on lit les attendus, c'est obligatoire, mais. Donc, je vais vous...
Alors.
Vous livrez la substantifique moelle de tout ça. Donc, on peut circuler en France, entrer dans tous les lieux publics sans avoir à porter de masque. Cependant, l'obligation perdure dans certains lieux pour protéger les personnes fragiles. Merci pour elle. C'est le cas dans les établissements de santé comme les hôpitaux, les cliniques, dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, mais aussi dans les cabinets médicaux, donc quand on va voir son médecin, dans les pharmacies et dans les laboratoires de biologie médicale. Ça fait quand même beaucoup d'endroits. Et cette règle concerne à la fois les soignants, les patients et les visiteurs.
Alors écoute, quand même, tu dis dans les pharmacies, moi j'ai vu les gens qui venaient sans masque, on ne savait pas.
Eh bien voilà, maintenant.
Bon, vous avez entendu les auditrices, auditeurs d'RVM, même à la pharmacie.
Oui, oui. Et c'est pas fini, parce que le pass sanitaire, qu'est-ce qu'il devient, ce cher enfant là, dans les établissements de santé, il n'est plus requis dans les transports ou dans les lieux de loisirs depuis le 14 mars, mais il reste demandé aux personnes accompagnant des patients ou leur rendant visite
dans
les 10 établissements de santé. Voilà. Le pass est aussi nécessaire pour entrer à l'hôpital lorsqu'il s'agit d'un soin programmé.
Eh ben.
Donc il ne faut surtout pas épuiser son stock de masques.
Oh ben, moi, j'en ai toujours un sous le coude.
Oui, mais il y en a déjà qui n'en ont plus. Quoi.
Ah, c'est fort possible.
Ouais. Et dans les transports, qu'est-ce que ça donne? Dans les transports internationaux, ce n'est pas si simple que ça, parce que l'Agence européenne de sécurité aérienne a annoncé que les masques ne seraient plus obligatoires ni dans les aéroports, ni à bord des avions de l'Union européenne à compter donc du 16. Mais les règles continueront de varier selon les compagnies aériennes au-delà de cette date. Donc en fait, c'est plus obligatoire, mais ça risque de l'être encore. Voilà. La dernière version du protocole sanitaire de l'aviation européenne prévoit ainsi que les compagnies puissent continuer à exiger le port du masque à bord des avions si le pays de départ ou d'arrivée exige le port de masque dans les transports publics.
Allez, renseignez-vous à l'avance.
Voilà, il y a intérêt, oui. Et pour le train, c'est pas
beaucoup pas mieux.
Plus. Non. Le masque n'est plus obligatoire dans les trains de la SNCF, mais les voyageurs qui se rendent à l'étranger doivent continuer à vérifier les conditions requises pour passer la frontière. Le masque reste obligatoire dans les trains de plusieurs pays frontaliers, Espagne, Belgique, Italie, par exemple.
Oui, vraiment frontalier,
voilà,
oui.
Et le masque reste toujours recommandé dans certaines situations. Donc il n'est plus obligatoire, mais enfin, on nous dit quand même qu'il vaudrait peut-être mieux le porter, quoi. Le gouvernement souligne que bien que le choix soit devenu individuel, le masque reste fortement recommandé dans les heures de forte affluence dans les transports, et de manière générale, dans tous les lieux où la promiscuité est importante ou qui sont mal ventilés. Voilà, j'y arrive, c'est moi qui étais mal ventilé, là.
Oui, c'est ce qu'on disait déjà depuis le début. Les espaces confinés, c'est là où ça se propage le plus. Donc je crois déjà que c'est du bon sens. On voit bien que les gens, peut-être pas majoritaires, mais se protéger quand même dans ces situations-là. Mais dis donc, ça va bien en le disant quand même, parce qu'il faut s'y retrouver. Il faut s'y retrouver.
Donc c'est valable tout ça, c'est surtout pour les personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques.
C'est obligatoire pour elles, je pense qu'elles le savent.
Et nous qui sommes des vieux machins, donc on a intérêt à garder notre masque.
Bon, très bien. écoutez, chers auditrices, auditeurs, j'espère que ça ne vous a pas découragé. Il fait beau, il fait chaud, allez, on n'y pense plus.
Et je crois que tu as eu des nouvelles extrêmement intéressantes de la part de la communauté de communes.
Ah, si tu veux savoir sur la communauté de
communes,
eh bien...
Toi, tu l'as reçu, mais pas moi, donc c'est pas arrivé jusqu'à dans ma lointaine province.
Donc c'est le dernier bulletin publié, Bonjour Valois, numéro 31 de mai 2022. Notre président, Monsieur Doucet, Didier Doucet, donc fait son éditorial, il fait le point, bien entendu, de ce qui s'est accompli. Et il aborde la question santé de la façon suivante. Donc je préfère vous lire. Début mars, nous avons également souhaité rencontrer les acteurs de la santé du Valois afin de partager avec eux notre volonté de contribuer dans le cadre de la compétence qui est la nôtre. Tu la connais, la compétence de la CCPV ?
Non.
Non, puisqu'ils ne l'ont pas pris, la compétence santé.
Remarque que je voulais faire, c'est qu'ils convoquent
les acteurs de la santé.
Mais apparemment, les patients n'en font pas partie.
Ah.
Puisque nous, on n'ose rien demander.
Non. Non, non. Non, non, mais parce que, écoute la suite. Tout tient dans le, si j'ose dire. Et donc, pour contribuer, alors c'est partager notre volonté de contribuer. Notre volonté. On n'en est pas dans des mesures ou des décisions prises, c'est notre volonté de contribuer. Un accès aux soins bien réparti sur la CCPV. Tu as quelque chose à dire, toi, Christian, quand on parle de répartition ?
Répartir quoi ? Puisqu'on manque d'un médecin. Il faudrait déjà commencer par essayer d'en recruter.
Alors, moi, je ne comprends pas. Il parle bien de la CCPV. Donc, j'espère qu'à cette réunion, on lui a dit que à Bay, il n'y allait plus avoir de médecin du tout. Qu'est-ce qu'il veut répartir de Bay ?
Le vide.
Donc, je trouve ça un peu problématique. Et échange intéressant qui démontre bien qu'il n'existe aucune recette miracle, ni un seul modèle pour attirer de nouveaux professionnels de santé.
C'est ce qu'on dit depuis les débuts de l'association.
Mais bien sûr. Et ce qui nous intrigue quand même, c'est que ce soit notre département ou la communauté de communes, ils privilégient un seul modèle.
La médecine libérale des années 1980.
Donc, la médecine libérale, c'est-à-dire le bon vouloir d'un médecin de s'installer et de rester surtout, parce qu'il y a beaucoup d'aide à l'installation. Et il termine, donc ce paragraphe, nous jouerons pleinement notre rôle de facilitateur et de coordination dans ce dossier. Nous nous retenons le rôle de facilitateur et on verra, puisqu'il n'y a pas de modèle. Qui vont faciliter, on verra comment ça se passera sur le territoire de l'ancien canton de Bay, parce qu'il va bien falloir trouver des solutions.
Pour l'instant, on a vu beaucoup d'argent promis pour les médecins libéraux, mais on n'en a pas vu arriver.
Pour les médecins libéraux ?
Oui, pour les médecins libéraux. Mmh.
Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de candidat médecin libéral. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, oui. On le sait toujours. Est-ce que tu as des nouvelles du côté de la maison de santé de Morienval ?
Je n'en ai point. Donc, je sais qu'il y a un docteur Ducrot qui est là-bas, qu'il est bien seul. Il y a aussi d'autres professions médicales, mais en matière de médecins, ils n'arrivent pas à en trouver d'autres.
Oui.
Et pourtant, le bâtiment est superbe. Je confirme. Chaque fois que je passe devant, je suis admiratif.
Et je précise, les maisons de santé pluriprofessionnelles telles qu'elles ont été définies par la loi, pour avoir, alors vous m'excusez, je vous donne l'idée et pas l'intitulé de la loi, elles doivent voir arriver l'installation de deux médecins généralistes nouveaux. Il faut deux nouveaux médecins pour qu'elles puissent remplir le cadre et avoir droit aux subventions.
Oui, alors que le docteur Ducrot, lui, il est là depuis des années à Morienval. Voilà. Donc, il n'est pas nouveau du tout.
Donc, ce modèle-là, n'est pas. Alors, aujourd'hui, on voulait normalement avoir un témoin d'une situation qui peut vous arriver, chers auditrices, auditeurs de RVM. C'est, avoir besoin d'un transport vers un lieu médical, un lieu de soins. Et donc, malheureusement, notre témoin est trop pris par les soins de sa compagne pour pouvoir être présent. Mais il nous a fait un petit récit dont on va vous en rapporter l'essentiel, surtout pour redire avec vous, reconsulter avec vous les conditions pour la prise en charge des frais de transport.
Accrochez-vous bien.
Alors, voilà, donc, son épouse, malheureusement, le 7 mars, a un accident à domicile, une chute à domicile, chose très courante. Elle est transportée par le SAMU à l'hôpital de Compiègne pour qu'on lui fasse un scanner. Donc là, pas de frais. 7 mars, 29 mars, elle doit consulter à Crépy-en-Valois. Mais étant handicapée au point de ne pas pouvoir se déplacer, elle doit être donc transportée allongée par une ambulance privée. Donc, à l'intérieur de la ville de Crépy-en-Valois, le transport du domicile au cabinet du médecin, 119,92 €, s'il vous plaît. Non remboursé, s'il vous plaît. 29 avril, parce que son problème est toujours là, cette dame. Elle doit consulter à Compiègne avec un autre médecin. Et là, elle y va en taxi, 70 euros. Bon, c'est un peu bizarre que le taxi, ce soit 70 euros et l'ambulance privée, 119 à Crépy-en-Valois. 10 mai, elle doit faire une scintigraphie au CIMA de Compiègne. À nouveau taxi. Vous vous rendez compte? Pour une scintigraphie, c'est que c'est... Il y a un problème. À l'aller, 55 euros. Au retour, 87,50. C'est de comprendre. Bon, sans commentaire. Enfin, 10 mai, là, parce que son état s'aggrave toujours, la pauvre dame, transport par les pompiers, là, on ne fait pas payer. Mais donc, ce monsieur a fait le total à charge non remboursé, 332,42 centimes à charge. Et le prochain rendez-vous, consultation, eh bien, il faudra encore qu'il paye 70 euros. Alors, voyons. Quand peut-on être pris en charge? Il y a des conditions, on comprend. C'est lorsque vous avez eu une hospitalisation, ok, ou que vous allez la voir. Lorsque vos traitements ou soins sont en lien avec votre affection de longue durée. Et si vous êtes en incapacité de vous déplacer. Voilà. Ou bien, ça peut être lié à votre état qui nécessite d'être allongé ou sous surveillance. N'est-ce pas le cas de cette dame?
Tout à fait.
J'y comprends rien. Pour parcourir une longue distance, ce n'est pas le cas. Pour vous déplacer plusieurs fois, transport en série quand c'est lié à un traitement à la suite. Ou si vous êtes convoqué, contrôle réglementaire pour un contrôle médical ou autre. Ou bien pour les enfants et adolescents, transport vers un centre d'action médico-social ou médico-psycho-pédagogique. OK. Et aussi dans le cas d'accident de travail, maladie professionnelle. Donc moi, là, je comprends pas. Cette dame, elle a eu un accident, elle ne pouvait pas se déplacer d'elle-même, on lui a fait payer. Alors, comment fait-on pour avoir une prise en charge? Il faut évidemment une prescription médicale, on s'en doute, ou une convocation. Mais il faut, dans certaines situations, que votre médecin vous la donne à l'avance. Vous devez remplir, au préalable, vous devez remplir un papier, l'envoyer à votre caisse de sécurité sociale. Et dans ce cas, comment dire, au bout de 15 jours, si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que c'est d'accord. Sinon, on vous le signale. Enfin, en cas d'urgence médicale, la prescription peut être remplie a posteriori. Dans quel cas rentrait cette dame? Je n'en sais rien, mais je ne comprends pas que son médecin ne lui ait pas dit si elle ne pouvait pas se déplacer, lui a envoyé cette... Enfin, quand même 15 jours, est-ce qu'on peut toujours prévoir d'avoir un rendez-vous 15 jours à l'avance?
On est en plein royaume du but, donc Alfred Jarry doit être
donc,
content.
Là, je crois que malheureusement, bien des patients et patientes se sont trouvés dans des situations où, en fait, il faut payer de plus en plus. Là, c'est le transport. Et plus votre affection dure, et plus vous payez. C'est vraiment incroyable. Moi, je me demande si ça pourrait pas être, traité devant les tribunaux, non pris en charge. Enfin, bref, je dis peut-être une bêtise. Eh bien, écoutez... Chères auditrices, auditeurs, voilà, on termine sur une note qui n'est pas optimiste, hein, la baisse de la prise en charge. Donc, la question des ressources de la sécurité sociale pour la prise en charge des soins et des transports, c'est fondamental. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu réécouter notre émission le samedi 10h30, le mardi 13h, jeudi 16h, et bien entendu en podcast. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.